Et bonjour à tous. Le gouvernement sommet de toutes parts d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Les nombreuses dégradations et les heurts constatés hier sur les Champs-Élysées à Paris lors du défilé des Gilets jaunes abîment l'image de l'exécutif accusé d'incompétence, ainsi que celle du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Nous ferons le point avec Benoît Bouscarel. Laura Dulieu a, elle, sollicité l'une des figures des Gilets jaunes, Jacqueline Mourot, qui condamne ces violences et explique pourquoi. Elle a tourné le dos à ce mouvement initié en novembre dernier. À la fin de cette édition, Nabila Hamel, dans la face cachée du Globe, s'attardera sur la lourde condamnation à 33 ans de prison de l'avocate iranienne et militante des droits de l'homme, Nasrin Sotoudeh. Mais tout d'abord, cette attaque ce matin en Cisjordanie occupée. Un Palestinien a subtilisé l'arme d'un militaire israélien et a ouvert le feu. Un mort et deux blessés. Les précisions à Jérusalem de Mathias Somme.
C'est au sud de Naplouse, aux abords d'Ariel, la quatrième plus grande colonie israélienne en Cisjordanie occupée, que l'attaque a eu lieu ce matin. L'assaillant a agressé un soldat israélien au couteau avant de se saisir de son arme et de tirer sur plusieurs véhicules. Bilan, un Israélien tué, deux autres blessés. Les autorités ont également affirmé avoir emmené deux personnes, des Israéliens de 46 et 20 ans blessé par balle, à l'hôpital. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver l'assaillant. Le porte-parole de l'armée n'a pas donné de précision sur l'identité de ce dernier. Cet incident se produit dans un climat de tension à quelques semaines des élections législatives israéliennes. Depuis un mois, des heurts se produisent régulièrement. À Jérusalem, les lieux saints voient les forces armées israéliennes affronter les manifestants tentant d'accéder à la mosquée Al-Aqsa, lieu saint pour les musulmans. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des roquettes ont également été tirées depuis Gaza vers Tel Aviv, une première depuis la guerre de 2014. En réponse, l'armée israélienne a bombardé une centaine de cibles dans la bande. Réponse musclée mais sans chercher à augmenter les tensions puisqu'il n'y a eu que 4 blessés.
Venons-en à ces lendemains délicats pour l'exécutif en France. Lendemain de mobilisation de gilets jaunes avec à Paris 200 personnes dont 15 mineurs en garde à vue et de très nombreuses destructions sur les Champs-Élysées. Les autorités ont dénombré 32 300 participants dont 10 000 à Paris. 17 membres des forces de l'ordre, un pompier, 42 manifestants ont été blessés dans la capitale. Hier soir, dans la cellule de crise du ministère de l'Intérieur, le chef de l'État convenait que le dispositif de sécurité n'avait pas été suffisant et que des décisions fortes complémentaires allaient être prises. Fin de citation. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Mathieu.
Benoît, le chef de l'État concentre les critiques.
Et pour l'instant, il n'y répond pas, se contentant de constater, comme vous l'avez dit, l'ampleur des dégâts. Question, Emmanuel Macron aurait-il perdu la main face aux gilets jaunes et aux casseurs? Aurait-il perdu la maîtrise des horloges? Quoi qu'il en soit, lui qui pensait pouvoir gérer plus ou moins sereinement la fin du grand débat national et qui pensait pouvoir annoncer à son rythme les mesures destinées à répondre à la contestation sociale, va devoir changer de méthode face à la tournure des événements. Écoutez Éric Ciotti ce matin chez nos confrères de France Inter, il est député des Alpes-Maritimes.
Cela n'est plus acceptable, cela n'est plus supportable et cela pose en effet des questions. Quelles sont les réelles motivations du gouvernement? Est-ce qu'il ne se nourrit pas finalement de cette situation qui entretient l'idée qu'a nourri le président de la République depuis plusieurs semaines, c'est moi ou le chaos?
Voilà, une façon de dénoncer, sans vraiment oser le dire, une sorte d'alliance objective entre le gouvernement et les casseurs, qui serait là pour rendre inaudibles les gilets jaunes.
Mais Benoît, de toutes parts, c'est bien la question de la stabilité, de la solidité de l'État qui est posée.
Et l'action du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner en particulier, est remise en cause. De Anne Hidalgo, la maire de Paris, jusqu'à Sébastien Chenu, du Rassemblement National, la compétence du locataire de la place Beauvau est clairement mise en doute. Tout autant, finalement, que la validité de la doctrine actuelle en matière de maintien de l'ordre. Écoutez, Gilles Carrez, il est député LR du Val-de-Marne.
Il faut qu'on change de doctrine, il faut qu'on change de directive dans le maintien de l'ordre, parce qu'on ne peut pas laisser perdurer une telle violence. Et donc, la vraie question, c'est maintenant comment on s'y prend, comment faire en sorte que les forces de police, de gendarmerie, au lieu d'être cantonné à un rôle de défense, de protection, comment faire en sorte qu'elle puisse aller au-devant, c'est-à-dire interpeller des manifestants. Parce que quand vous avez des manifestants, on le voit sur les images à la télévision, qui sont casqués, qui sont masqués, qui sont armés, il est évident qu'on ne peut pas les laisser faire. Il faut aller les chercher, il faut les interpeller, il faut les neutraliser. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que bon, ces changements de doctrine dans l'emploi, dans le maintien de l'ordre, qui me paraissent légitimes, ils comportent des risques. Donc, face à ça, mais qui me paraît aujourd'hui nécessaire, moi je pense qu'on a besoin d'un consensus politique en tout cas entre les partis de gouvernement, pour soutenir complètement nos forces de police, de gendarmerie dans le maintien de l'ordre public et assumer les conséquences.
Alors voilà, reste à savoir si ce consensus politique pourrait se faire pour lutter contre ce que Xavier Bertrand à l'instant appelle une guerre contre la République. Le délai dans la promulgation de la loi anticasseur décidée par le président de la République est toujours très mal compris dans la classe politique.
Merci à vous Benoît Bouscarel. J'ajoute que le Premier ministre Édouard Philippe réunira cet après-midi à 17h30 à Matignon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le secrétaire d'État Laurent Nunez pour évoquer ces fameuses décisions fortes demandées par Emmanuel Macron. Celles et ceux qui continuent de s'impliquer dans des rassemblements de gilets jaunes se désolidarisent volontiers des auteurs de ces violences récurrentes. Que devient ce mouvement des gilets jaunes? Qui y participe encore? Les revendications ont-elles évolué? Élément de réponse avec Jacqueline Moureau, gilet jaune qui est partie fonder son propre parti, Les Émergents. Jacqueline Moureau qui répond aux questions de Laura Dulieu.
Honnêtement, qui peut être fier de ce qui s'est passé hier encore? Je connais personne qui peut revendiquer d'être content de voir Paris à feu et à sang. Enfin, quand même, mettre la vie des personnes en danger, saccager le patrimoine. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? On veut faire évoluer la France. Donc, ce n'est pas renier ses revendications que d'évoluer soi-même au sein d'un mouvement. Le pire, ce serait de ne pas évoluer. Les gens quittent le mouvement petit à petit. Bon, déjà, les personnes qui sont modérées comme moi ont quitté depuis déjà le mois de décembre. Tout simplement parce que la violence est contre-productive. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas en démolissant le pays qu'on va construire. C'est pas vrai. La seule façon de faire perdurer les revendications et le mouvement en lui-même, eh bien, c'est de se structurer. Ça, c'est l'évolution du mouvement qui nous l'a fait comprendre. Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, au bout de 18 mobilisations le samedi, les gens qui continuent encore peuvent constater que, de toute façon, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est pas possible de continuer sur ce mode-là. Il n'y a qu'une seule façon de peser sur la politique française, c'est de faire de la politique. Il n'y a pas d'autre solution. Les revendications ont évolué au fur et à mesure du temps passé. La revendication, de toute façon, première et globale, c'est le pouvoir d'achat. La constatation, c'est qu'il y a une très mauvaise répartition des richesses. Maintenant, plus ça dure, plus ça devient des revendications particulières.
Est-ce que le risque, c'est pas d'aller se structurer, mais de pas se rassembler finalement, d'aller se structurer dans diverses organisations où le risque, c'est de se disperser et...
Non, parce que justement, quand on crée un parti politique comme par exemple ce que nous sommes en train de faire, mais les gens se rassemblent sur l'idée du parti politique parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il suffit de rester fidèle aux revendications du 17 novembre, et je parle bien du 17 novembre, parce que tout a dégénéré dans les revendications aussi. Il faut être fidèle aux revendications premières, et ça rassemble, parce que je peux vous dire qu'il y a une très très forte attente en France, mais pas une attente de nouvelles violences, une attente de propositions d'un nouveau parti politique.
Jacqueline Moureau, gilet jaune, parti fondé, son propre parti, Les Émergents, avec Laura Dulieu. Après 4 mois de gilet jaune, les syndicats tentent d'impulser une nouvelle journée d'action dédiée à la défense du pouvoir d'achat. Force ouvrière, la CGT, Solidaire, la FSU, l'UNEF et l'UNEL appellent à prendre part à cette mobilisation nationale mardi prochain. Le parquet de Lyon ouvre une enquête après une agression homophobe dont a été victime un couple de femmes, une gendarme et sa compagne. Prise pour cible par une bande de jeunes filles, vendredi soir, information que l'on doit à nos confrères du Parisien. L'une des deux victimes a reçu des coups de cutter au visage. La mise au point de la préfecture, les plages de Gironde ne sont pas polluées par des nappes d'hydrocarbures issues des cuves et du chargement du Grande Américain. Des reconnaissances effectuées hier aujourd'hui par la mairie d'Ourthain et l'hélicoptère de la gendarmerie révèlent que les souillures constatées proviennent de déchets organiques et non d'une pollution hydrocarbure du Grande Américain. Au Mali, les forces gouvernementales, de nouveau ciblées dans le centre du pays, des hommes armés ont pris d'assaut une base militaire à Youra, dans la région de Mopti, 16 soldats tués. Selon le Washington Post, l'administration américaine envisagerait de maintenir en Syrie 400 soldats. La ministre de la Défense française, Florence Parly, est attendue demain à Washington pour revoir les contours d'une future force antiterroriste dédiée à la lutte contre les effectifs de l'organisation État islamique. Paris plaide toujours pour un appui aux forces kurdes, les forces démocratiques syriennes. Au Nicaragua, des policiers anti-émeutes s'en prennent violemment à des journalistes ainsi qu'à des opposants au régime, rassemblés au centre de la capitale Managua pour réclamer au clan Ortega au pouvoir la libération de tous les prisonniers politiques. Il est un peu plus de 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Bachanchar, c'est le nom d'un îlot boueux isolé du golfe du Bengale. C'est là que le Bangladesh a choisi de transférer des dizaines de milliers de Rohingyas qui vivaient dans des camps surpeuplés près de la frontière avec la Birmanie. Ces déplacements devraient commencer en avril. Dhaka dit avoir déjà construit des abris et des barrages anti-submersion, mais ce projet reste impopulaire au sein de la minorité musulmane apatride de Birmanie. Une deuxième série de pourparlers entre les Américains et des représentants des talibans s'est achevée mardi au Qatar. Les deux parties font état de progrès sans pour autant s'être mis d'accord sur le retrait des soldats étrangers d'Afghanistan à Kaboul. Grincement de dents, nous sommes les derniers à être tenus au courant, disait un conseiller du gouvernement afghan. Il a clairement évoqué l'ambition personnelle de l'émissaire américain Zalmay Khalilzad dans cette affaire. L'homme est d'origine afghane. Son visage fin, marqué par ses séjours en prison, est connu. L'avocate iranienne Nasrin Sotoudeh vient de se voir infliger une peine supplémentaire de 33 ans de prison et 148 coups de fouet. Katia Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer à Amnesty International. L'infatigable militante pour la défense des droits de l'homme a appris sa condamnation dans la tristement célèbre prison d'Evin, où elle purge déjà depuis juin dernier une peine de 5 ans. Avez-vous un peu plus de précision sur ces condamnations?
Nous savons que cette semaine, le bureau d'application des peines de la prison d'Evin à Téhéran l'a informé qu'elle avait été reconnue coupable de 7 chefs d'inculpation. Elle a été notamment inculpée pour incitation à la corruption et à la prostitution, pour avoir commis ouvertement, je cite, un acte immoral en apparaissant en public sans porter le hijab, et de troubles à l'ordre public. D'une manière générale, les 7 chefs d'inculpation touchent à son opposition aux lois relatives au port obligatoire du hijab, mais aussi au travail qu'elle a pu mener pour l'abolition de la peine de mort. Donc effectivement, c'est une nouvelle terrible qui aujourd'hui doit être dénoncée très fortement et nous appelons évidemment à ce que cette peine soit annulée.
De nombreux avocats et défenseurs des droits de l'homme se plaignent également d'un espace qui se réduit de plus en plus pour eux en Iran.
Absolument. Les autorités durcissent leur répression et cette condamnation n'intervient pas au hasard. Il se trouve qu'en ce moment en Iran, les femmes osent sortir de chez elles sans porter le hijab. De ce fait, elles sont régulièrement insultées, agressées en pleine rue et elles ont le courage de révéler ces attaques sur Internet à travers des vidéos. En réaction, les médias d'État ont véritablement lancé une campagne de dénigrement contre les militantes et les militants féministes. Donc effectivement, on est à un moment très très important où la parole se libère, mais la répression se durcit et les espaces critiques et les espaces de la société civile en général se réduisent.
7000 personnes emprisonnées l'an dernier. Est-ce que ce tour de vis est lié au contexte des sanctions ?
Alors effectivement, on voit un durcissement de la répression. On ne peut que le lier effectivement au contexte plus politique actuel. Et en ce sens, il est primordial que la communauté internationale, les États et notamment l'Union européenne qui entretient un dialogue actif avec l'Iran, se positionne fermement. Il faut que les pays qui jouissent d'une influence sur l'Iran prennent fermement position publiquement contre cette condamnation honteuse de Nasrin Sotoudeh, mais plus généralement contre ce tour de vis à l'encontre de la société civile en Iran.
Katia Roux d'Amnesty International, et sachez que vous trouverez un portrait de Nasrin Sotoudeh sur notre site franceculture.fr. L'Union européenne comptait 5 pays dans sa liste des paradis fiscaux. Elle l'a réactualisée en y ajoutant 10 autres, des micro-États des Antilles ou des Caraïbes, mais aussi, Pierre Benazet, un des pays prospères du Golfe, les Émirats arabes unis.
Les pays ajoutés ce mardi sont essentiellement dans les Caraïbes, avec par exemple les Bermudes, le Belize ou Saint-Domingue, mais aussi un territoire de la couronne des Pays-Bas, l'île d'Aruba, qui devient le premier paradis fiscal indirectement associé à l'Union européenne. Surtout, la liste inclut désormais 2 pays du Golfe, le Sultanat d'Oman et son voisin, les Émirats arabes unis. Le gouvernement de l'Italie, qui a des liens économiques importants avec les Émirats, avait tenté de faire retirer le pays de la liste, mais après la décision, le ministre italien des Finances s'est dit persuadé malgré tout que le pays n'y resterait pas longtemps. Il reste que ces pays sont désormais presque aussi nombreux que lors de la création de la liste il y a un peu plus d'un an, à la suite des scandales comme les Paradise Papers ou les Panama Papers. Lors de cette première publication, plus des 2/3 des pays pointés du doigt avaient rapidement pris des engagements de réforme, ce qui prouvait, selon les Européens, l'efficacité de la liste. Il faut cependant bien dire que les Émirats Arabes Unis figuraient déjà dans ce groupe de pays repêchés et restent donc un suspect de premier plan. 34 autres pays sont sur la liste grise et continueront donc d'être scrutés par les Européens.
À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabil Hamel. Le temps de ce dimanche après-midi sera marqué par un régime d'averse qui traversera le pays, ainsi qu'un épisode neigeux sur les massifs. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili, à la technique, Alex Dang.